La lecture de quelques portions de la parole dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 12. Jean, chapitre 12. Jésus donc, 6 jours avant la Pâque, vint à Béthanie, où était Lazare le mort, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On lui fit donc là un souper, et Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui étaient à table avec lui. Marie donc, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Verset 9. Une grande foule d'entre les Juifs sut donc qu'il était là et vint, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Verset 12. Le lendemain, une grande foule qui était venue à la fête, ayant ouï dire que Jésus venait à Jérusalem, prit les rameaux des palmiers et sortit devant lui et criait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Et Jésus, ayant trouvé un ânon, s'assit dessus. Selon qu'il est écrit, « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur l'ânon d'une ânesse. » Or, ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais quand Jésus eut été glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses étaient écrites de lui et qu'il avait fait ces choses à son égard. La foule donc qui était avec lui lui rendait témoignage parce qu'il avait appelé Lazare hors du sépulcre et qu'il l'avait ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi aussi la foule alla au-devant de lui, parce qu'ils avaient appris qu'il avait fait ce miracle. Verset 20. Or, il y avait quelques Grecs d'entre ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ceux-ci donc vinrent à Philippe, qui était de Bethsaïda de Galilée, et ils le priaient, disant, « Seigneur, nous désirons voir Jésus. » Mais Philippe vient et le dit à André, et André vient, et Philippe, et ils le dirent à Jésus. Et Jésus leur répondit, disant, « L'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. En vérité, je vous dis, à moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui affectionne sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde-ci la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, moi, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Verset 37. Et quoi qu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne crurent pas en lui, afin que la parole d'Ésaïe, le prophète, qu'il prononça, fût accomplie. « Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» C'est pourquoi il ne pouvait croire, parce que Ésaïe dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, afin qu'ils ne voient pas des yeux, qu'ils n'entendent pas du cœur, et qu'ils ne soient pas convertis, et que je ne les guérisse. » Ésaïe dit ces choses parce qu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Toutefois, plusieurs d'entre les chefs même crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas, de peur d'être exclus de la synagogue, car ils ont aimé la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Quelques réflexions à travers ce chapitre 12. On médite souvent cette première circonstance où le Seigneur Jésus se retrouve dans cette maison. Et il y a des qualificatifs qui sont donnés à chacune des personnes qui sont citées. Il vint à Béthanie où était Lazare le mort. C'est assez particulier comme façon de s'exprimer, sans doute. On accepterait difficilement, peut-être encore aujourd'hui, de pouvoir parler d'une telle façon de quelqu'un, par exemple, qui aurait traversé des moments très difficiles dans sa vie, des souffrances, des maladies, où peut-être la médecine elle-même aurait pu déclarer ne pouvoir rien faire. Et accompagner cette personne alors dans le reste de sa vie de ces moments. Lazare le mort, mais ici, il y a plus que cela, parce qu'il est ajouté que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. Voilà donc ce moment, cette réunion familiale dans une maison où le Seigneur Jésus se retrouve avec une des âmes qu'il a arrachées à la mort par sa puissance. Et sans doute, on pourrait se réjouir pleinement d'un tel état, d'une telle rencontre du Seigneur Jésus. Et on sait que lorsque, dans le chapitre 11, on appelle Jésus parce que son ami Lazare est souffrant et qu'il faut aller le guérir, le Seigneur prend du temps. Mais il peut dire, cette maladie, au verset 4 du chapitre 11, cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu. Cela nous enseigne, Lazare était là présent, mais il reflétait déjà la gloire du Seigneur Jésus. À travers les circonstances que nous rencontrons dans nos vies, eh bien, la manière dont nous les acceptons, la manière dont nous les vivons, la manière dont nous pouvons en parler ensuite, eh bien, manifeste la gloire du Seigneur Jésus. Si nous parlons de lui, si nous disons « c'est le Seigneur qui m'a aidé, c'est le Seigneur qui m'a guéri, c'est le Seigneur qui m'a fortifié », eh bien, Lazare le mort était à table. Et on lui fit donc là un souper au Seigneur, et Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui étaient à table avec lui. Voilà, Marthe aussi, dans ce chapitre, dans d'autres circonstances, était en émoi de ce service qu'elle voulait rendre au Seigneur, et que sa sœur Marie était là, assise, et qu'elle ne faisait rien. Une part que le Seigneur donne à Marie, il le relève, mais aujourd'hui, eh bien, Marthe sert. Elle a ce service à accomplir pour le Seigneur, et elle le fait humblement et fidèlement. Voilà aussi, ce n'est pas toujours, et on l'a lu d'ailleurs dans les versets qui suivent, ce n'est pas toujours la recherche de quelque chose d'élogieux qui puisse nous donner une position, bien au contraire. Rien que le fait, parlons-en simplement, le fait de se lever, de présenter la parole, ce n'est pas une gloire, c'est un service. Et la parole le dit, que celui qui se lève, eh bien, il parle, et ceux qui sont assis, qui écoutent, ils jugent. Ils écoutent, ils entendent, mais ils ont dans leur cœur le Seigneur Jésus, pour la plupart, en tout cas, parmi nous, sinon tous. Et l'Esprit agit en nous, et nous donne de comprendre ce qui est énoncé. Mais voilà, celui qui se lève pour présenter la parole, il s'abaisse. Il se met au service des autres. Et voilà, Marthe servait. Marthe servait ce repas. Et ils étaient à table. Alors Marie va prendre une livre de parfum de nard pur de grand prix. Voilà, voilà la valeur de ce qu'avait le Seigneur Jésus pour Marie. Oui, ton amour sollicite mon faible cœur. Marie n'était pas une personne extraordinaire, et sans doute pour s'acquérir ce parfum de nard pur de grand prix, avait-elle dû se sacrifier dans sa vie, ne pas profiter sans doute de beaucoup de choses qu'elle aurait pu faire. Et elle avait préparé ce parfum. Elle l'avait préparé pour oindre les pieds de Jésus, et elle lui essuie les pieds avec ses cheveux. Voilà une position remarquable dans cet évangile. C'est que Marie, elle aussi, s'est abaissée. Elle s'est abaissée à préparer ce qui est excellent pour le Seigneur. Que dans nos vies aussi, nous puissions avoir cette recherche des choses qui sont bonnes pour présenter la personne du Seigneur Jésus. pour refléter la personne du Seigneur Jésus. Alors, la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Quelle situation merveilleuse! Une maison qui est remplie de l'odeur du parfum que cette femme a préparé pour le Seigneur. Est-ce que nos maisons sont remplies du parfum de ce que nous avons et nous avons préparé pour le Seigneur? Est-ce que on peut, en effet, à travers nos vies et peut-être à travers nos maisons, refléter quelque chose de la personne du Seigneur Jésus? Alors, je le dis tout de suite, ce n'est pas en décorant sa maison de toutes sortes de choses remarquables, ni en voulant posséder des richesses de ce monde. Non, c'est au contraire, sans doute dans la simplicité. Mais en ayant cette manifestation que les choses que nous réalisons, nous le faisons pour le Seigneur. Le résultat de ces choses se fait sentir. Nous avons choisi justement ces versets, au verset 9. Une grande foule d'entre les Juifs sut donc qu'il était là et vint non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On sent l'incrédulité du peuple. On n'est pas venu voir Jésus, on est venu voir Lazare. On n'est pas venu voir celui qui avait sauvé Lazare, qui l'avait ressuscité. On est venu voir celui qui était ressuscité, en disant « Oh, quelle chose extraordinaire s'est passée !» Et nous voulons voir cet homme vivant. Mais le Seigneur Jésus était là. Et elle le sait. La foule d'entre les Juifs sut donc qu'il était là. Et parfois, c'est bien ce qui se passe, et nous avons à prêter attention. C'est que dans les choses que nous faisons là aussi, de ce que nous sommes, et pour Lazare, c'était sans doute quelque chose de merveilleux d'avoir été ressuscité par le Seigneur. Mais il faut laisser la place, la première place, à Jésus. Ils étaient là non seulement à cause de Jésus, bien sûr, il avait fait des miracles, il pouvait en guérir d'autres, il pouvait encore intervenir pour d'autres personnes. Mais il avait cette curiosité d'aller voir Lazare, que nous ayons, nous, la curiosité de connaître Jésus. On sait que beaucoup de circonstances sont données dans cet évangile, selon Jean, pour montrer justement cet intérêt de la personne du Seigneur Jésus. Tout en commençant cet évangile, Jean le baptiseur le regardait marcher. André et un autre disciple de Jean ont voulu voir le Seigneur Jésus, ont voulu voir où il demeurait. Ils voulaient déjà le connaître davantage. Et ici, voilà une foule qui se déplace pour voir Jésus sans doute, mais aussi surtout pour voir Lazare. Alors il y a, voilà, cette dualité qui nous est présentée, il faut faire attention. C'est Jésus que nous devons voir. C'est Jésus que nous devons considérer. Et si le Seigneur a fait du bien, si le Seigneur a apporté des choses qui peuvent être remarquables pour l'homme, il faut que ce soit la gloire du Seigneur Jésus qui brille. Verset 12. Le lendemain, une grande foule qui était venue à la fête, ayant oublié que Jésus venait à Jérusalem, prit les rameaux des palmiers et sortit au-devant de lui. Alors, que font-elles ? Elles s'écrient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » De nouveau là, le Seigneur n'est pas reconnu pleinement pour ce qu'il est. C'est celui qui vient au nom du Seigneur Jésus, le roi d'Israël. Mais non, c'est lui-même, c'est Jésus, c'est le roi d'Israël, c'est le Fils de Dieu, c'est celui qui est venu pour sauver son peuple. Mais il lui donne la place d'un prophète. On sait que lorsque le Seigneur Jésus a interrogé ses disciples, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, et les hommes, que disent-ils que je suis ? Ce qui a permis à Pierre, conduit par l'Esprit sans doute, révélé par le Père, tu es le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur de lui dit, mais ce n'est pas toi qui a pu dire une telle chose ? C'est Dieu lui-même qui a révélé cette chose dans ton cœur. Alors oui, en effet, il y a des choses que nous pouvons exprimer encore aujourd'hui et qui sont produites par le Saint-Esprit en nous, par la personne du Seigneur Jésus elle-même, et qui peuvent parfois dépasser sans doute vraiment la compréhension que nous avons de la personne du Seigneur Jésus. Alors le Seigneur vient dans son humilité parfaite, cet amour qui s'humilie, nous l'avons exprimé ce matin. Eh bien, il va monter sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et le Seigneur réalise cela parce que toutes ces choses sont écrites dans les prophètes. Et c'est intéressant de pouvoir lire justement toute la parole de Dieu et y découvrir tout ce que le Seigneur Jésus est. Nous savons que lui-même a pu dire aux deux disciples d'Emmaüs, et commençant par les prophètes, et lui montrer tout ce qu'on parlait de lui, tout ce qui était dit de lui à travers les prophètes, les psaumes, les écritures. Voilà ce que cette recherche merveilleuse, c'est de découvrir la personne du Seigneur Jésus dans toutes les écritures. Et on voit que ses disciples ont du mal de comprendre cela. Au verset 16, ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais quand Jésus eut été glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses étaient écrites de lui et qu'ils avaient fait ces choses à son égard. Tout au début de l'Évangile, on l'a déjà lu plusieurs fois, mais dans le chapitre 4, je pense, ou même encore avant, oui, c'est dans le chapitre 2, au chapitre 2 et au verset 22, il y a la même expression. Lors donc qu'il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Il a fallu du temps aux disciples pour comprendre pleinement ce que le Seigneur Jésus leur annonçait. Et pour nous, il en est de même. Tant d'années à lire la parole, parfois, et puis il faut du temps pour comprendre. Il y a des passages que l'on ne comprend pas tout de suite. L'apôtre Pierre disait lui-même, il y a des choses difficiles à comprendre. Mais le Seigneur révèle, si nous cherchons à le rencontrer, si nous le cherchons à le voir, à le considérer, à le connaître, alors il va se révéler à nous. Ici, bien sûr, on le comprend. Ils ont reçu toutes ces révélations lorsque l'Esprit Saint est descendu sur ceux qui étaient assemblés là, le jour de la Pentecôte, et au moment où est née vraiment l'Assemblée. Alors, il y a ces révélations magnifiques qui sont données, et on comprend, et on voit immédiatement dans ceux qui vont présenter la parole, et notamment l'apôtre Pierre, qui va comprendre tout ce qui avait été écrit dans le rouleau du livre, dans les psaumes, dans les prophètes. Et il va citer tous ces passages à propos pour bien montrer que celui qui avait été crucifié était le Fils de Dieu, était celui qui était annoncé par les prophètes. Alors, au verset 17, « La foule donc qui était avec lui lui rendait témoignage parce qu'il avait appelé Lazare hors du sépulcre et qu'il l'avait ressuscité d'entre les morts. » On voit en effet que ces miracles ont quand même touché beaucoup d'âmes. Et on sait que lorsque le Saint-Esprit est descendu, nous parlions de ce jour de la Pentecôte, eh bien, on voit combien le nombre de disciples se multiplie. Un premier chiffre est donné peu de temps après, 3000 âmes. Et puis on passe tout de suite à 5000 âmes. Peut-on se rendre compte de cette foule qui, dans Jérusalem, eh bien, apprenait à connaître que celui qui venait d'être crucifié sur la croix était celui qui était annoncé, celui en qui ils auraient dû croire. Alors il ne faut pas qu'aujourd'hui aussi dans ce monde, et on en parle parce que, voilà, il y a des âmes qui qui ont à cœur dans ce monde d'annoncer le Seigneur Jésus. Elles ont ça vraiment à cœur, elles le font dans toutes leurs circonstances. Et cela nous rappelle aussi que c'est bien ce que nous faisons. Nous recherchons la présence du Seigneur, nous l'entourons, nous lui rendons l'honneur qui lui est dû. Nous nous instruisons dans la parole, nous la connaissons, mais aussi il faut partager ce qu'il y a dans notre cœur. Parler à une âme aujourd'hui que nous rencontrons, parce que voilà, cette foule, elle a vu ce miracle, mais il faut aller plus loin, il faut révéler qui est Jésus, celui qui a donné sa vie pour que nous l'ayons en abondance. Alors, au verset 20, on voit cette succession dans ce chapitre de personnes qui ont entendu parler de Jésus et qui viennent voir. Sans doute, il y a encore beaucoup de choses à comprendre. Ce n'est pas une connaissance très profonde, mais il y a cette recherche de la personne du Seigneur Jésus. Verset 20. « Or, il y avait quelques Grecs d'entre ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ceux-ci donc vinrent à Philippe, qui était de Bethsaïda de Galilée, et le priaient, disant, « Seigneur, nous désirons voir Jésus. » Alors, nous voilà dans un cas où Philippe est là, un disciple que Jésus avait appelé à le suivre, et des âmes viennent en disant, « Nous désirons voir Jésus. » Voilà à nouveau des âmes qui cherchent à le connaître, qui cherchent à le rencontrer. Et Philippe, que va-t-il faire? Il vient, il le dit à André, et puis André vient et Philippe, et ils le disent à Jésus. Voilà, Philippe aurait pu peut-être aller directement. Il avait besoin d'André. On n'en parle pas beaucoup d'André dans les évangiles. Et pourtant, c'est celui qui a rencontré le Seigneur. C'est celui qui est allé trouver son frère et lui dire « Nous avons trouvé le Messie ». Et ici, c'est lui qui va aller amener ses hommes, ses âmes vers le Seigneur Jésus. Il faut que le cœur de ceux qui connaissent Jésus soit rempli de lui, pour que nous puissions en effet dire à une âme, eh bien viens, mais viens, nous allons te faire connaître Jésus, nous allons te montrer Jésus, nous allons parler de Jésus. Alors, le Seigneur va révéler quelque chose de merveilleux. Jésus leur répondit, disant, « L'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. » Bien sûr, on est dans les derniers moments, dans les derniers jours de la vie du Seigneur. Le Seigneur parle ici, bien sûr, déjà de sa crucifixion, de son sacrifice et de sa résurrection, qui ne sera connue que de ceux qui l'ont reconnu comme étant le Fils de Dieu, qui l'ont suivi réellement dans le chemin, non pas par curiosité simplement, mais qui avaient mis leur cœur à suivre le Seigneur. À moins que le grès tombant en terre ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Image si simple d'un grain qui tombe en terre. Un grain. Et puis ce grain va donner une plante qui elle-même va donner beaucoup de fruits. Voilà donc le résultat. Le résultat de ce que le Seigneur Jésus a fait, mais aussi nous montre par là même ce que nous pouvons faire aussi. Si nous présentons le Seigneur Jésus. Alors ici, il y a un enseignement qui suit. Celui qui affectionne sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde-ci la conservera pour la vie éternelle. Alors, voilà, que faisons-nous de notre vie? Est-ce que nous essayons de la garantir un maximum? Comme l'homme peut inventer toutes sortes de choses pour se garantir la vie. Ou bien est-ce que nous la donnons simplement au Seigneur Jésus? Celui qui affectionne sa vie la perdra. Donc celui qui recherche beaucoup de choses pour lui-même, pour se dire « je vais essayer de vivre le plus longtemps, le mieux possible », et que va-t-il faire de ses occupations ? Eh bien, il va perdre la vie, parce qu'il ne connaîtra pas Jésus. Par contre, celui qui est sa vie dans ce monde-ci, la conservera pour la vie éternelle. Avons-nous affaire de ce que nous sommes dans ce monde-ci, sinon de servir le Seigneur ? Sinon de rechercher justement ce que le Seigneur Jésus peut nous apporter ? Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, moi, là aussi sera mon serviteur. Voilà un endroit particulier que nous sommes appelés à rechercher. Où se trouve le Seigneur ? Alors nous avons ces réunions d'assemblée où nous nous appuyons sur la parole parce que nous nous réunissons à son nom. L'évangile selon Matthieu. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Mais il y a le reste de la vie. On n'est pas ici en permanence. On n'est pas ici en permanence en réunion autour du Seigneur Jésus. Alors, où je suis moi, là aussi sera mon serviteur. Il y a donc des endroits où le Seigneur se trouve dans ce monde. Mais on peut dire aussi qu'il y a des endroits où il ne se trouve pas. Et là, nous devons prendre attention à ne pas nous trouver là où le Seigneur ne se trouve pas. Là où le Seigneur n'ira pas. Et c'est important pour nous. Voilà, le Seigneur va mourir, il l'annonce, et il va porter beaucoup de fruits. Mais attention, il ne faut pas penser à soi-même. Il faut aller là où le Seigneur nous dit d'être. Alors, dans le paragraphe qui suit, nous n'avons pas lu de passage, mais nous voyons combien le Seigneur Jésus, il le dit dans ce verset 27, « Maintenant mon âme est troublée, que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. » Voilà, le Seigneur a devant lui la croix. On ne peut pas réaliser ce qu'il y a eu dans le cœur du Seigneur Jésus. Il était en étroite communion, en pleine pensée avec son Père. Il avait horreur du péché, comme Dieu a horreur du péché. Et il ne peut voir le mal sans le punir. Et le Seigneur sait qu'il y a devant lui cette croix. Alors, il est troublé. Il est troublé en tant qu'homme. Il est l'homme Christ Jésus sur la terre. Et il sait toutes ses souffrances. Il connaît mieux que nous les Écritures. Et quand on lit les psaumes, par exemple, on y voit toutes les souffrances du Seigneur Jésus qui sont exprimées. Et le Seigneur sait ces choses qui vont arriver. Alors, je suis venu pour cela. C'est pour cela que je suis venu à cette heure. C'est pour mourir sur la croix, pour vaincre l'adversaire, pour en sortir victorieux de la mort et pour être élevé dans la gloire. Oui, le Seigneur Jésus est venu pour ces choses-là. Alors, il y a quelque chose de remarquable qui se passe au verset 28. Le Seigneur continue, « Père, glorifie ton nom. » Et il vint donc une voix du ciel, et je l'ai glorifié, et je le glorifierai de nouveau. Au Jourdain, le Seigneur est descendu. Il est descendu pour le baptême de Jean. Faisons bien la distinction, ce baptême n'est pas le baptême chrétien. C'est le baptême de repentance que Jean annonce au peuple d'Israël pour préparer le chemin du Seigneur, pour que les cœurs s'ouvrent à la voix du Seigneur Jésus lorsqu'il va traverser ce pays, lorsqu'il fera ses miracles, qu'il parlera aux foules. Voilà ce que Jean voulait faire. Et le Seigneur s'identifie à ce peuple. Il veut être comme eux. Et il descend au Jourdain. Et il se fait baptiser par Jean le baptiseur qui lui-même dit « Mais grand, t'es Seigneur Jésus, t'es plus grand que moi, comment puis-je faire une chose pareille ?» Mais le Seigneur lui dit « Que t'importe ?» Il dit « Voilà, fais cette chose. » Il fallait que le Seigneur passe par là. Et il y a une voix qui se fait entendre, on la connaît. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. La voix du ciel se fait entendre. Elle va se faire encore entendre sur la Sainte Montagne, lorsque le Seigneur est là, présent, avec quelques disciples, et il le voit avec Moïse et Élie. Et de nouveau, la voix se fait entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Et il faut le suivre, il faut l'écouter. Il faut entendre la voix du Seigneur. Écoutez-le. Et puis on parle peu de cette voix qui se fait entendre ici. Il vint donc une voix du ciel, et je l'ai glorifié, et je le glorifierai de nouveau. Remarquable. Le Seigneur est là dans la tristesse, dans le trouble, dans cette difficulté pour lui d'aller vers la croix, parce qu'il est saint, parce qu'il est pur, et qu'il va être fait péché. Nous ne pouvons pas mesurer dans nos esprits, dans nos pensées, dans nos corps, ce que cela a été pour le Seigneur. Et que s'est-il passé? Et la foule donc qui était là, qui avait entendu, dit qu'un coup de tonnerre avait eu lieu. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Incompréhensible pour l'homme. Cette voix du ciel, incompréhensible pour ceux qui sont là et qui sont venus entendre Jésus, qui l'ont suivi. On a vu à plusieurs reprises comment ils ont pu rechercher la personne du Seigneur Jésus. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas cette voix. Alors Jésus répondit et dit, « Cette voix n'est pas venue pour moi, mais pour vous. » Voilà le ciel qui s'ouvre, qui se fait entendre pour la foule qui se trouvait là. Et on voit la difficulté que l'homme a à entendre, à recevoir cette parole qui vient du ciel. Les cœurs sont fermés, les yeux sont fermés. On le dit d'ailleurs dans les versets 37 à 42, 43. Voilà l'état de l'homme. Eh bien, il faut entendre cette voix. Et on peut se souvenir, je ne vais pas être trop long, mais on peut, à travers la parole, voir comment Dieu a pu parler à ses serviteurs dans des économies différentes, dans des moments tout à fait différents. Révéler à ses serviteurs toute sa gloire, montrer cette gloire du ciel et que ce serviteur soit imprégné de cela pour faire son service. Et c'est important pour nous aussi. Cet amour sollicite notre faible cœur. Mais il veut que nous puissions être remplis de lui. Et pour cela, nous le recevons à travers la parole. Nous pouvons le recevoir parfois aussi par certaines circonstances de la vie où nous pouvons discerner que le Seigneur Jésus était là présent, qu'il a agi pour intervenir par nous ou pour nous, ou parfois contre nous, en nous disant non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Alors, cette voix s'est fait entendre. Elle n'est pas venue pour moi, mais pour vous. Maintenant, le jugement de ce monde, maintenant le chef de ce monde sera jeté dehors. Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi-même. Voilà le résultat merveilleux de l'œuvre du Seigneur Jésus. Il est venu, il est mort, il a été considéré. On peut relire Ésaïe 53 quand on voit les expressions qui sont données dans ce chapitre de ce que le peuple a considéré, comment le peuple a considéré le Seigneur Jésus. Eh bien, il est venu, il va être élevé de la terre vers le ciel et il va attirer tous les hommes à moi-même. C'est le désir de Dieu. Dieu ordonne maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils se repentent. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et le Seigneur lui-même dit, « J'attirerai tous les hommes à moi-même. » Alors, à partir du verset 37, « Et quoiqu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne crurent pas en lui, afin que la parole d'Ésaïe, le prophète, qu'il prononça, fût accomplie. » De nouveau, la prophétie est là. Elle dit à l'avance les choses qui se sont produites pendant la vie du Seigneur Jésus sur la terre. Et ces âmes, eh bien, que s'est-il passé? Qui a cru? Qui est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? C'est la question qui se pose. Ésaïe, par l'Esprit, pouvait poser cette question. Et la parole d'ajouter, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, afin qu'ils ne voient pas des yeux, qu'ils n'entendent pas du cœur, qu'ils ne soient convertis et que je ne les guérisse. Il y a un moment de grâce dans lequel nous sommes. Il y a un moment où Dieu accepte le pardon, donne le pardon, accepte la repentance, accepte ces paroles qui viennent du cœur, et il remplit le cœur lui-même. Mais il y a un moment où il est trop tard. Et là, c'est fini. Et la parole nous donne des exemples. Ésaü a recherché avec cri et avec larmes cette bénédiction qu'il avait jetée pour pas grand-chose. « Oh, ce droit d'aînesse, qu'est-ce que je vais faire de ce titre ? Je n'en ai rien à faire. » Et puis après, il va pleurer, parce qu'il n'a pas reçu de bénédiction. Et la parole nous a dit, « Ben non, voilà, il n'a pas eu, il n'a pas obtenu ce qu'il devait obtenir. » Il y a donc quelque chose de sérieux quant à la parole de Dieu, lorsque nous devons entendre, parce qu'il y a aussi cette condamnation qui vient, lorsque l'on ne veut pas entendre, lorsqu'on bouche ses oreilles, qu'on ferme ses yeux à la beauté du Seigneur Jésus, qu'on ferme ses oreilles à la parole du Seigneur, que le cœur n'est pas touché, eh bien alors, il y a cette punition, pourrions-nous dire, il y a ce jugement, en tout cas, qui vient. Mais il est remarquable de voir à nouveau cette petite remarque qui est faite. Ésaïe dit ces choses parce qu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Voilà, voilà encore dans ce chapitre, cette gloire qui est apparue à un serviteur. Ésaïe 6, le Seigneur est vu par Ésaïe sur un trône. Et il y a cette expression « Saint, Saint et l'Éternel ». Par trois fois, cette sainteté est annoncée, tellement elle est remarquable, tellement elle est profonde, elle est grande. Eh bien, Ésaïe vit sa gloire et il parla de lui. À travers son service, il a pu rappeler ces choses. Et puis voilà, cela travaille les cœurs, malgré tout. Toutefois, plusieurs d'entre les chefs même crurent en lui. Oh, ils ont peur. Ils ont peur d'être exclus de la synagogue. Dans ce monde, il faut faire un choix. Parfois, si nous annonçons l'Évangile, si nous mettons notre position dans notre travail, par exemple, le monde ne le comprendra pas. On va peut-être dire, bon, celui-là, on n'en a pas besoin, il va nous créer des ennuis. Il ne fera pas ce qu'on lui demande. S'il a décidé de ne faire que ce qu'il prétend que Dieu lui a donné, eh bien, c'est parfois comme cela que le monde peut réagir. Ils ont aimé la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Alors voilà comment le Seigneur, Seigneur ta grâce illimitée, si pure et si douce pour moi, fait que mon âme est transportée chaque fois que je pense à toi. Voilà le Seigneur qui nous parle. Et on voit combien le Seigneur a été vu. Il a été vu dans ce monde. Il a été cru. Mais si peu, pourrions-nous dire, parce que le cœur est dur, parce que les yeux se ferment, les oreilles se ferment. Alors que nous puissions, nous, à travers notre vie, à travers ce travail que nous avons exprimé dans ce cantique, c'est un cantique magnifique parce qu'il parle en effet réellement de ce travail qui est opéré dans nos cœurs. Mais alors il doit en ressortir quelque chose. Chacun a son service de la part du Seigneur, on le répète souvent. On ne fait pas tous la même chose. Et le Seigneur a besoin de chacun à sa place. Eh bien, aussi que nous puissions refléter ce que le Seigneur est. Et peut-être alors avoir cette réponse qui nous manque parce que nous sommes dans ce petit lieu. On a été dans cette grande salle. À l'origine, il n'y avait même pas cette cloison, et la foule était là. Et la foule n'est plus là. Alors, voilà, c'est peut-être notre service aussi qui est défaillant à certains égards, et que le Seigneur nous donne de pouvoir le réaliser davantage, ce que nous avons dans le cœur, de le manifester à l'extérieur. Le Seigneur travaille nos cœurs pour nous manifester sa gloire, pour nous montrer des choses magnifiques, les choses magnifiques de Dieu, mais ce n'est pas pour les tenir pour nous-mêmes. Il faut parler, il faut manifester. Sans doute notre vie est déjà un reflet de ce que nous sommes, si nous pratiquons les choses qui sont inscrites dans la parole. Et on peut avoir le témoignage. Dans ma vie, j'ai eu le bonheur d'entendre le témoignage de personnes du monde quant à des frères qui étaient assis ici dans ce local. Et on a parlé d'eux en disant que, voilà, ils vivaient ce qu'ils étaient. Ils vivaient ce qu'ils étaient comme chrétiens. Et voilà, que le Seigneur nous donne cette part et que nous puissions ainsi, à la fin de l'histoire de l'Église, parce que nous approchons tout doucement, mais nous le sentons que nous approchons. Toutes les circonstances de ce monde nous montrent à travers la parole que les prophéties concernant Israël sont réalisées. Faut-il le rappeler ? Nous l'avons considéré, Ézéchiel, dans ce chapitre où il nous est montré ses os, ses nerfs, cette chair, cette peau qui fait que ces hommes qui étaient dispersés à travers le monde tout entier sont en train de se reconstituer comme une nation au milieu de toutes les nations. C'est la préparation de, sans doute, de ce qui va se produire, parce que c'est principalement des âmes de Judas et Benjamin qui sont là, revenus dans le pays, principalement, parce qu'il y a malgré tout encore des âmes d'autres tribus qui sont présentes. Mais voilà, tout cela nous montre que le retour du Seigneur est bien proche, parce que nous voyons les choses qui sont écrites dans la parole. Ça, c'est important. Nous voyons de notre temps les choses qui sont annoncées. Et ce qu'il y a d'encore plus remarquable, ce sont des frères qui, avant que cela ne se produise, au début du siècle, dans les premières années du siècle passé, ont écrit, et même du siècle précédent, ont écrit que Israël allait revenir dans ses terres, allait redevenir une nation. Ils l'ont écrit, ils comprenaient ce livre d'Ézéchiel. Ils nous l'ont montré et nous le vivons. Alors est-ce que cela touche nos cœurs de voir que ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est la vérité et les choses se réalisent pour nous. Et nous sommes donc maintenant à la veille du retour du Seigneur. Pour nous, bien sûr, les choses sont merveilleuses. Le Seigneur va nous enlever à sa rencontre sur la nuée et nous introduire dans le ciel. Mais alors les choses vont continuer à se dérouler sur la terre, elles nous sont exprimées déjà par l'Ancien Testament, mais de façon alors beaucoup plus grande par le livre de l'Apocalypse. Eh bien, voilà, les jugements vont tomber sur la terre. L'Église va être protégée. Philadelphie nous a dit, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière. Eh bien, c'est pour bientôt. Alors que le Seigneur nous donne de pouvoir travailler encore pour ces derniers temps pour lui, et que dans cette expression que l'on emploie parfois, lorsque la dernière âme sera ajoutée, lorsque l'Église sera au complet, on comprend que Dieu ne tardera pas à envoyer son Fils pour la prendre. Que le Seigneur nous encourage, nous fortifie, nous réjouisse, nous donne cette énergie pour le servir, peut-être plus fidèlement que ce que nous l'avons fait jusqu'ici.